Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes de retour sur le radio, sur Radio Canu, le 102.2. Et c'est l'émission Idées Noires de la coordination des groupes anarchistes. Tout de suite. Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous, c'est Idées Noires, comme tous les mercredis de 20h à 21h, l'émission de la coordination des militants et militantes de la coordination des groupes anarchistes. Et comme à l'habitude, ben, quelques annonces qui nous concernent, surtout ce soir.
C'est parti, oui, on va faire un peu une spéciale pour ne pas perdre non plus un quart d'heure sur les annonces. Voilà, parce que du coup, il se passe des choses ce week-end-là, ce week-end pour nous, pour Alternative Libertaire et pour la CNT. Donc on va faire un petit point sur ce week-end, et puis pour les autres annonces, je vous laisserai aller voir sur Rebellion, il y a d'autres choses qui se passent bien évidemment ce week-end aussi. Alors c'était un week-end un peu spécial, on l'avait organisé il y a 2 ans, on avait même fait une semaine il y a 2 ans, une semaine CLAF, donc avec Alternative Libertaire et la CNT. Alors à la CLAF, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est la CLAF, hein. Au départ c'était une campagne libertaire antifasciste qui a été faite en 2014 et qui regroupait, bon, au départ, ces 3 organisations, Alternative Libertaire, la CNT et la coordination des groupes anarchistes. Donc ces 3 organisations ont décidé à l'époque en commun d'apporter des réponses à caractère anti-étatique, anti-capitaliste, anti-électoraliste et contre toutes les formes de discrimination et d'oppression, racisme, xénophobie, sexisme, lesbophobie, homophobie, transphobie, etc. Elles ont décidé donc de concert d'apporter leurs réflexions, leurs propositions et leurs actions sur le terrain social. Il y a un matériel de propagande qui a été fait, donc il y a eu un premier 4 pages qui a été édité, il doit en rester encore un peu à la plume noire. Il y en a un deuxième qui a été édité il n'y a pas longtemps, que vous pouvez retrouver ce week-end. Des autocollants et des affiches. Voilà, tout ça, vous pouvez, si vous venez aux activités de ce week-end, vous pourrez trouver tout ça, on vous les filera tranquillement. Donc voilà. Et par la suite, au niveau de la CLAF, il y a la Fédération Anarchiste et l'Organisation Anarchiste qui ont rejoint la CLAF sur Lyon. Ça se passe vraiment entre 3 organisations, hein, AL, CNT et CGA. Voilà, on travaille ensemble maintenant depuis 3 ans, et on avait donc organisé en 2015 une semaine antifasciste, antiraciste. Voilà, ça se passait aussi au mois de juin. Alors au mois de juin, c'est pas anodin, pourquoi on fait ça au mois de juin? C'était aussi, voilà, pour avoir une pensée toujours de solidarité, qu'on n'oublie pas Clément Méric, hein, donc du coup qui avait été assassiné par des fascistes au mois de juin il y a 4 ans déjà maintenant. Donc voilà, donc il y avait le week-end dernier sur Paris, donc il y avait des manifs, des ateliers, des concerts, voilà, en mémoire de Clément. Et ben nous on fait ça, voilà, une semaine après, avec ce coup-ci donc un week-end, pas une semaine, hein, on a réduit un petit peu la voilure, mais du coup il y a quand même 3 activités, et on démarrera le vendredi soir à la Plume Noire. avec un concert.
Donc ce vendredi, donc.
Ouais, pardon, ce vendredi, ouais, le 9 juin, à 20h30, on ouvrira la plume un petit peu avant, vers 20h, 19h30, 20h, le concert démarrera sans doute vers 20h30, donc c'est le collectif Carousel Fusion. Alors Carousel Fusion, vous connaissez peut-être pas, mais vous connaissez sûrement Dialek, ils sont déjà venus deux, trois fois à la plume noire, groupe de Gnawa, et donc là, donc ce sera pas Dialek, mais ce sera du coup des membres de Dialek quand même, donc voilà, c'est presque Dialek au complet, mais voilà, on pouvait pas appeler ça Dialek, parce qu'il n'y avait pas tout le monde. Donc Carousel Fusion, voilà, qui vont nous faire de la musique Gnawa et chansons populaires, donc voilà, à partir de 20h30, au 8 rue Diderot, à la plume noire, et comme d'habitude, eh ben, c'est à prix libre. Donc ça, c'est la première activité du week-end. La deuxième, ça se passera dans le local de la CNT, au 44 rue Burdeau, donc le samedi 10 juin à 16h. Voilà, donc on vous propose une présentation du collectif Question de classe, pardon. Alors, question de classe, c'est pareil, ils sont déjà venus à la plume noire. C'était, il y a un petit moment déjà, je me souviens plus. C'était en septembre, c'est la première activité de la pseudo-rentrée, entre guillemets.
Récent,
voilà,
c'est récent.
Voilà, donc c'était en septembre 2016. Ils étaient venus, pareil, présenter le collectif, présenter un des numéros de leur magazine Notre École et présenter les bouquins qui sont sortis sous Libertalia. Édité par Libertalia. Et donc là, du coup, on réinvite Question de classe parce qu'ils avaient sorti un numéro cet hiver spécialement sur l'extrême droite qui s'appelait Éducation contre les extrêmes droites, extrême droite contre l'éducation. Donc là, ils viennent présenter le numéro et en plus, voilà, dans les membres du collectif, donc il y aura une personne qu'on connaît bien, que tu as déjà vu la première fois, et en plus Alain Chevarin, donc qui est membre du collectif, qui est aussi auteur. Alors, j'ai pas le nom des bouquins, je suis désolé. Si, je l'ai là. Je l'ai. Alain, voilà, donc est professeur de lettres en retraite de Clermont-Ferrand, militant de suite l'éducation, militant depuis toujours contre les extrêmes droites dans divers collectifs dont Ralph Ron, auteur d'un livre sur l'esthétique d'extrême droite, fascinant, fascisant, et un deuxième livre qui va bientôt être sorti sur l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Donc il y aura deux personnes qui vont présenter du coup le collectif Question de classe, le magazine Notre École, et s'appuyer sur un des bouquins écrit par Grégory Chamba qui s'appelle L'école des réacs publicains.
Ouais,
voilà. Vous allez voir sur notre site local, hein, notre page de réseau social, et puis bientôt sur Rebellion, ça va être publié. Voilà. Notamment beaucoup utiliser la cartographie qui avait été faite dans ce numéro-là, ce numéro spécial sur l'extrême droite de Question de classe. Du coup, ouais, vous laisserez y jeter un petit coup d'œil. On a mis tous les liens sur l'article sur Rebellion, donc n'hésitez pas. Donc ça c'est pour les deux premières activités. Pour la troisième activité, on retourne à la plume noire. Ce sera le dimanche 11 juin à 16h aussi, donc toujours 8 rue Diderot, avec cette coup-ci une projection d'un documentaire. Alors j'ai pas l'affiche sur moi, mais j'ai plus les infos, je vous le dis dans deux secondes.
On va y arriver.
Un peu à l'arrache aujourd'hui. Donc c'est la projection du documentaire d'Angélique Kourounis qui s'appelle Aube dorée, une affaire personnelle. Voilà, on est assez content de pouvoir vous le passer parce que voilà, on a un peu peur de pas pouvoir le faire parce que voilà, ils sont encore en train d'essayer de le financer correctement. Quand vous allez voir sur le site du documentaire, vous voyez qu'il y a quelques projections mais pas des masses dans des pays européens, mais c'est assez parsemé. Donc voilà, on est hyper content parce que on les a contactés hier soir à l'arrache, hein, on vous le dit, hein, ça arrive. Voilà, et ils ont répondu dans le quart d'heure pour nous dire qu'il n'y avait aucun souci pour qu'on passe au documentaire, au contraire. Donc voilà, on est assez content, donc on va, voilà, on va le diffuser là déjà dimanche après-midi, puis on verra si on refait pas un autre truc aussi un peu plus tard, et créer du lien du coup avec cette équipe de ce documentaire.
Tu peux peut-être détailler un peu.
Ouais, vas-y, je t'en prie, je te laisse faire du coup. Parce que moi,
donc le contenu de documentaire, donc c'est Obdoré, une histoire personnelle, donc ça commence, je sais pas si vous avez vu le trailer peut-être, mais le trailer commence par je pense que c'est la réalisatrice qui explique et qui dit que qu'elle, elle est féministe de gauche, que son fils est gay, son autre fils est anarchiste, que son mari est juif, et que si Aube dorée passe, la question sera pas de savoir s'ils vont être déportés, mais dans quel train. Et elle commence là-dessus, et elle a suivi l'ascension d'Aube dorée. Donc, de son côté, au départ, quand il se la joue encore, tout petit parti d'extrême droite minoritaire à... par exemple, la bouffe qui était donnée qu'aux personnes qui avaient la carte d'identité grecque, etc., et aux agressions racistes avec Pablo Plifas, et etc. Et voilà. Donc elle nous livre un peu toutes les méthodes, qu'a l'extrême droite pour monter, et sur quoi aussi se nourrit l'extrême droite, et donc sur quoi aussi nous, en tant qu'anarchistes et plus globalement dans le mouvement social, on doit lutter, et où c'est qu'on peut avoir de l'emprise contre le fascisme, quoi.
Donc voilà, et suite à cette projection, bah, on fera sûrement une petite présentation de ce qu'est la CLAF avec le matériel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et s'en suivra sûrement aussi une discussion sur la situation locale. C'est important de faire aussi quelque chose sur, voilà, sur un pays européen notamment, voilà, sur la situation, comment ça se passe là-bas. On parle beaucoup, hein, on a beaucoup parlé dans l'émission de la Grèce, de la Hongrie, de la Pologne. Donc voilà, donc là c'était l'occasion de faire un truc voilà, sur notre pays, mais on reviendra forcément sur la situation locale de Lyonnaise, hein, qui est assez particulière en France. Hein. On en reparlera tranquillement ensemble, donc du coup dimanche après-midi. Alors je vous redonne tout dans l'ordre et puis on en reparlera en fin de l'émission. Vendredi 9 juin, donc ce vendredi 20h30, concert avec Carousel Fusion, c'est donc du Gnawa, musique populaire, c'est à, enfin, toutes les activités sont à prix libre, hein, vous l'aurez compris, c'est tout en Paris avec nous. La Pule Noire au 8 rue Diderot, le samedi après-midi, donc le 10 juin à 16h, présentation, débat, question de classe, éducation contre extrême droite contre éducation au local de la CNT 44 rue Burdeau. Et dimanche après-midi 16h, projection du documentaire d'Angélique Kourounis, Aube Dorée, une affaire personnelle à la Pule Noire, au 8 rue Diderot. Et tout ça, donc, c'est organisé par la CLAF avec Alternative Libertaire, la CNT et la coordination des groupes anarchistes. Je finis juste pour une petite dernière annonce très rapide. Si vous êtes du côté de Montpellier, samedi soir à 20h, et ben, à la Mauvaise Réputation, qui est la librairie du coup de nos camarades montpelliérains et montpelliéraines, il y a une soirée de soutien à l'Assemblée Pink Bloc. Voilà, avec présentation de la soirée du Pink Bloc, projection du film Pride et discussion informelle. On vous laisse aller voir du coup sur le site du groupe de Montpellier, de la CGA, si vous voulez plus d'infos.
Voilà, très bien.
Voilà.
C'est torché.
Et ben voilà. Donc on se fait une petite pause du coup.
Allez, une petite pause musicale pour digérer tout ça quand même. Ça, on essaiera de rappeler ça en fin d'émission éventuellement.
Ouais, on va faire tout ça,
ouais. On va écouter un vieux de la vieille, là, Serge Gerouillot, camarade évidemment, qui l'a fait et fort, et qui est un chanteur très connu maintenant, et qui va nous interpréter donc Étoile blafarde de mai.
La décharge au bout d'une rue, vers la barricade contre notre ennui, et prennent le large des lutins perdus. Étoile blafarde filant dans Paris, la police grise qui cogne au hasard et gaze la lune qui ne s'éteint pas. Le temps des cerises venant chaque soir planter la commune qui ne pousse pas. L'espoir se rhabille dans le jour qui vient, de pavés qui dansent sous les réverbères. Du fond de la ville, quartier Saint-Germain, les idées se lancent dans les courants. Somnole dans ses draps mouillés, Trotsky le repousse, ils sont ivres morts. Et moi je rigole sous mon poing levé. Bakounine tous et il se rendort. C'était une fête, un hymne au printemps, un chant d'impatience, d'amour imparfait. Jeunesse défaite, riant de l'argent, avec insolence sous le mois de mai. L'espoir se rhabille dans le jour qui vient, de pavés qui dansent sous les réverbères. Du fond de la ville, quartier Saint-Germain, les idées se lancent dans les courants. Les idées se lancent dans les courants. Les idées se lancent dans les courants d'air.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militantes et militants de la coordination des groupes anarchistes. Et on va enchaîner après cette pause musicale sur une première page de lutte sociale.
Oui, il y en aura. Ce n'est pas terminé, donc je vais attaquer par un sujet, je dirais, récurrent, c'est l'amiante. Et ce sont les travailleurs, enfin surtout ceux et celles qui ont bossé évidemment dans un confinement de poussière amiantée et autres saloperies qui n'ont toujours pas disparu de la circulation, hein. Je pense quand même aux déchets nucléaires par exemple, dans la chimie également, où c'est pas très net, pas très propre. Les égouts aussi, mais enfin bon, on peut en citer comme ça une liste infinie. Et pour l'amiante, eh ben, ça concerne plutôt, sur cette page, l'un de lutte, c'est la société Renault Trucks à Vénissieux, où 200 ouvriers, ex et présentes, hein, se battent toujours, même après une quinzaine d'années de dossiers qui sont dans les pattes du juridique. Ça va pas très vite, hein, imaginez un petit peu une quinzaine d'années. En 2016, on va revenir un petit peu au jour d'aujourd'hui, en 2016, c'est l'usine de Vénissieux donc, qui a été reconnue enfin site amianté. Certains ont obtenu une retraite anticipée, d'autres sont morts, hein, des suites de cette amiante, hein, qui les a empoisonnés à petit feu, je dirais, sans jeu de mots. L'amiante est un produit, donc un matériau plutôt vicelard, sa poussière qui filamente dans les poumons, rend malade des années après en avoir respiré. Et le cas donc des salariés Berliers, anciennement Berliers, anciennement RVI et maintenant Renault Trucks, et donc pris en compte ces dossiers qui ont bossé ces gens-là, ces travailleurs de 1964 à 1996, à ce titre donc ils peuvent faire reconnaître le fameux préjudice d'anxiété. Il y a quand même 900 dossiers déposés, 900 qui sont étudiés par paquet de 50. Ça risque d'être long à ce rythme, plus long que les effets de l'amiante. À Lyon, on va reparler des Ouibus, hein, avec une grève, on se rappelle, le 27 mai, à Perrache. Un soutien demandé une suite en fait du 3 juin là, dernier. Soutien demandé jusqu'au 29, des misères qui leur viennent de la SNCF, qui prétexte un déficit de 30 millions d'euros. Donc 3 jours de grève après une première qui avait eu lieu en mars, est exigé par les grévistes que la SNCF prenne un peu mieux au sérieux leur situation actuelle et à venir, et réfuté par les grévistes cette fameuse proposition de reclassement au sein de la SNCF. Bon, ces propositions ne leur ont jamais été faites, soumises, que des départs volontaires en fait aux conditions déjà évoquées, j'avais déjà rappelé ça sur 2-3 émissions. Alors c'est en quelque sorte pour ces travailleurs un baptême de lutte, un pied dans la réalisation d'une défense de terrain contre les méfaits patronaux. La direction de la SNCF a été intimidée au point qu'elle a fait usage du « je casse la grève » en embauchant des intérimaires, des conducteurs donc de cars. Et c'est mieux que d'y envoyer les cadres, ça fait des salariés contre des salariés évidemment. Bel avenir macronique, donc voilà pour la suite.
La macronique est aiguë.
Comment ?
La macronique aiguë.
La macronique aiguë, oui. À Rennes, maintenant, en Ille-et-Vilaine, c'était le 26 mai, des étudiants, étudiantes dans la rue, et c'était pas forcément mai 68, évidemment, pour protester contre les frais annuels d'inscription dans les écoles publiques ou privées. 6 000 euros par an. Comme ils et elles sont en études de kinésithérapie, je leur soufflerai volontiers de s'orienter sur la branche ou du moins la filière vétérinaire pour trouver l'argent sous le pied d'un cheval. C'est une bonne idée, non ? Hein, voilà. À Metz, maintenant, ça a lieu tous les samedis. C'est un rassemblement pour dénoncer la misère où se trouvent des centaines de migrants et migrantes qui sont, entre guillemets, parqués dans un bidonville bien gardé par des vigiles. Le comité de lutte contre cette misère est en place tous les samedis pour informer et dénoncer l'incurie administrative de l'État qui feint d'ignorer qu'à Metz, il y a 7 600 logements inoccupés. On a à peu près la même chose à Lyon, n'est-ce pas ? Et dans d'autres villes également. Groupe Desmazières maintenant, c'est une autre lutte, donc c'est du groupe Desmazières qui possède l'enseigne Chausses Expo. Le groupe veut faire du vide. Une soixantaine de magasins sur 165 étaient fermés en cette mi-mai à l'appel de l'intersyndicale EFO, la CFDT, la CGC et la CGT. Alors c'est un projet de licencier 88 salariés sur la région Nord-Pas-de-Calais. La fermeture définitive de 29 magasins. Alors les indemnités ici sont dénoncées comme étant tout à fait ridicules, alors que la société va toucher 3,5 millions d'euros en crédit d'impôt compétitivité et 1 million pour 2017. Alors en ce moment, il y a des débrayages de... Enfin, il y avait à l'époque, mi-mai, donc des débrayages de 2 heures qui étaient organisés. Et pour finir cette première page, je vous emmène du côté à Marly, c'est dans les Hauts-de-France également, avec une grève chez Dexchrome, c'est dans la chimie cette fois, et on comptait un bon tiers de l'effectif en grève. Alors qu'est-ce qui pêche ici ? Ben, ce sont les salaires. Il est exigé 50 euros de mieux et brut, et contre les 0,9% proposés par la direction et 0,6% individuellement. C'est ce qu'on appelle des augmentations au mérite. C'est ringard, complètement ringard. Pour 1300 euros, c'est 11 à 19 euros de mieux par mois. DCX, c'est une société du groupe Delachaux. 906 millions en chiffre d'affaires d'euros. Delachaux, vous me direz, c'est une famille, encore. C'est la 74e dans le hit-parade des riches qui pesait en 2014 740 millions d'euros. Le groupe a 3200 salariés sur la planète et ça serait bien s'ils se mettaient en grève tous ensemble. Voilà pour cette première page de lutte sociale. Et je laisse le micro à mon camarade pour autre chose.
Ouais, j'enchaîne. Je voulais refaire un petit point avec vous sur... on en sait un peu plus maintenant sur ce que prépare le nouveau président et toute son équipe, voilà, notamment sur le code du travail. Il y a
des choses... Je crois qu'on en sait un peu plus, parce que je crois que c'est tous les jours qu'on apprend qu'il y a eu des combines.
Quels os sont à être mangés.
Voilà, on en sait un peu plus, parce qu'il y avait déjà beaucoup de... On en savait déjà beaucoup, mais là, c'est plus ou moins officiel maintenant, ouais. Parce que du coup, ça a été présenté un petit peu, voilà, même s'il n'y a pas encore toutes les mesures. On sait grosso modo, effectivement, à quelle sauce on va manger ou pas, tout va dépendre de ce qui se passe, mais le problème c'est que l'été arrive et qu'ils veulent aller très vite et mobiliser l'été, c'est très compliqué. Voilà, je vous donne un petit peu par rapport au code du travail, notamment ce que prépare le gouvernement, le gouvernement Philippe, c'est ça, Edouard Philippe. Donc voilà. On va commencer par la négociation du motif du licenciement et des indemnités. Vous saviez déjà qu'avant, donc la fameuse loi El Khomri, la fameuse loi travail, l'entreprise maintenant elle peut enclencher des licenciements économiques dès lors que ses commandes ou son chiffre d'affaires commence à piquer du nez. Il y avait une exigence temporelle, c'était que cette baisse devait être observable sur un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés et jusqu'à 4 trimestres consécutifs pour les plus de 300, tout en sachant que ça peut un peu se trafiquer tout ça. Le juge n'a plus le pouvoir de jauger le motif économique, mais ce dernier reste encadré par la loi. Mais du coup, ils veulent aller du coup plus loin, vous avez bien compris, parce qu'en fait la loi travail, c'était déjà un peu la loi Macron, si vous avez bien suivi le truc, et pour lui c'est pas allé assez loin, donc maintenant qu'il a le pouvoir, et il n'a pas se gêner. Donc lui, il veut concrétiser un vieux rêve du patronat, à savoir pouvoir négocier en amont et à l'échelle de l'entreprise le motif du licenciement. Et donc là, tout devient possible. On peut prévoir d'autres critères, encore moins exigeants que ceux prévus par la loi travail, mais aussi en inventer de nouveaux, c'est ça qui est sympa. Et les personnaliser au niveau de la boîte, c'est pour ça qu'on parle beaucoup, que les syndicats parlent beaucoup d'un code du travail par entreprise.
Ouais, par rue, oui.
Voilà. En définissant, par exemple, un niveau des ventes pour les commerciaux ou de production pour les ouvriers. En cas de non-respect de ces objectifs, le licenciement deviendrait alors automatique et sans possibilité de recours. De la même manière, pourrait être négocié le niveau des indemnités légales de licenciement, et non pas prud'homales, accordées par le juge en cas de licenciement illicite. On peut aussi négocier la durée de la période d'essai, pour pouvoir jeter les gens un peu plus facilement, le préavis et les congés familiaux. Donc ça, voilà, c'est un petit peu par rapport aux indemnités et par rapport au motif de licenciement. Il y a aussi les critères encadrant le recours au CDD. Et donc là, pour les CDD, serait aussi négociable au niveau de l'entreprise le motif du recours à ce type de contrat, leur durée maximale, le nombre de renouvellements, la période de carence, les cas de rupture. Voilà, en fait, ils pourront faire un peu tout ce qu'ils veulent. C'était encore plus ou moins encadré pour les CDD. Il y avait encore des chances, des fois, qu'ils soient embauchés à plein temps. Voilà, si le patron faisait pas très gaffe à la loi, et ben là, maintenant, ce sera voilà, vraiment open bar, parce que tout va se négocier au niveau de l'entreprise. Il y aura aussi un recentrage de l'accord de branche sur quelques domaines. Alors, les accords de branche ne primeraient plus que dans un nombre restreint de domaines. La mutualisation des fonds professionnels, les minima salariaux, il y aura encore ça, les classifications, la prévoyance, l'égalité professionnelle et éventuellement la pénibilité. Mais on voit ce que ça donne, hein, la pénibilité. Ouais, non, ça avait essayé d'être abordé à l'ancien, avec l'ancien gouvernement, puis là on voit que ça traîne des pieds, comme d'habitude. Voilà, donc,
c'est aller plus loin sur la hiérarchie des normes.
Voilà, c'est ça, ouais.
Donc c'est ce qui était déjà dénoncé, en fait, lors de l'époque. Travail avec la version de la hiérarchie des normes du travail.
Et même les secteurs, du coup, exhaustivement énumérés, où une branche aurait la possibilité de verrouiller, mais à la majorité qualifiée, un accord d'entreprise pourrait malgré tout déroger. Donc en fait, voilà, en fait, l'accord de branche ne servira à rien. Voilà. Et puis pour revenir un petit peu, parce qu'il va là encore aller plus loin par rapport au travail, t'en parlais, donc la primauté de l'accord d'entreprise sur le contrat de travail, donc là, c'est même pas sur les accords de branche, les contrats collectifs, etc., etc., c'est carrément sur le contrat de travail, parce qu'aujourd'hui, à l'exception de quelques situations précises, les modifications du contrat de travail découlant d'un accord d'entreprise doivent être acceptées par le salarié, qui doit signer un avenant à son contrat, autrement ça ne s'applique pas. Eh ben, le gouvernement propose d'y mettre fin en prévoyant du coup un principe général de primauté de l'accord d'entreprise sur le contrat de travail. On te modifie ton truc, si tu signes pas, bah ça s'applique quand même à toi.
Voilà, et c'est-à-dire que par exemple, si t'es un ancien de la boîte, par exemple, et que tu profites de imaginons lors d'une fusion, enfin moi je le vois dans ma boîte, c'est comme ça, bah que t'as des avantages de l'ancienne boîte, bah en fait on pourra te les sucrer sans même que tu signes.
Voilà, parce que d'habitude, voilà, il faut quand même, voilà.
Ouais, d'habitude, faut que tu signes.
Tu gardes
jusqu'au moment où ils te négocient le truc et te négocient généralement le truc à la hausse, parce que sinon tu le signes pas, de toute façon.
Voilà. Et puis le truc, voilà, qui est assez ouf, parce que bah, c'était déjà assez ouf avant ce fameux référendum d'entreprise. Maintenant, ça va être et c'est là où la loi travail voulait aller encore plus loin, mais avec les mobilisations, ils avaient reculé un petit peu. Et ben là, le référendum, il pourrait être organisé par l'employeur. Alors déjà on craignait avec la loi travail, c'est-à-dire que même si des syndicats qui représentaient au moins 30% des voix, donc les autres pourraient représenter, par exemple, eux ils pouvaient organiser un référendum et du coup faire voter tout le monde avec le couteau un peu voilà, en disant bah de toute façon si vous votez pas, bah la boîte elle va fermer ou d'autres choses de ce type là. Et donc du coup voilà, mais là ils vont plus loin parce que c'est le patron qui pourrait solliciter un référendum si un accord a été soumis à la négociation, donc on imagine n'importe quoi, retour aux 39 heures dans l'entreprise, mais n'a pas été conclu. Bah, les syndicats, forcément, ils ont refusé parce que voilà, puis ils étaient majoritaires, ils ont refusé. Mmh. Et ben voilà, autrement dit, sans le soutien d'aucun syndicat, ils pourront du coup mettre un référendum dans l'entreprise. Et puis voilà, toujours avec le chantage au travail. Hein. Enfin ouais, voilà, si vous n'acceptez pas, bah c'est dehors qu'on mettra la clé sous la porte et c'est fini.
C'est ça la démocratie au travail, du coup.
Tout à fait, voilà.
Je connaissais pas.
Il y aura un barème obligatoire des indemnités en cas de licenciement abusif. Heureusement, encore un tout petit truc. Un nouveau périmètre du licenciement économique. Un délai réduit pour saisir les prud'hommes. Alors pour ceux qui ont déjà un petit peu fait ça, enfin c'est assez compliqué de monter un dossier, il faut laisser le temps de le faire.
Presque un an et demi.
Voilà. Et ben là, souhaite réduire donc ce délai. Il dispose aujourd'hui les salariés licenciés de 12 mois pour saisir la justice s'ils considèrent par exemple que leur employeur n'est pas en difficulté ou qu'un plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû mettre en place. Et ben le cabinet suggère de réduire ce délai à 2 mois seulement. Vous imaginez les embouteillages aussi dans les chambres prud'hommes, quoi.
Et aussi, je sais pas si c'est inclus dans la loi, mais par exemple, dans des cas, par exemple, de harcèlement sexuel, par exemple, actuellement, je crois que c'est que 3 ans c'est-à-dire que tu peux aller au tribunal que 3 ans après ce qui s'est passé. Et je pense que s'ils veulent réduire ça, bah, ça veut dire, en fait, que, bah, on imagine très bien
c'est
ce que ça va donner.
Ouverte, oui.
Ah ouais, c'est la porte ouverte.
C'est vraiment, les gens sont pas encore bien compte, enfin, on est déjà pas bien compte avec la loi travail parce qu'il y a pas encore beaucoup de choses qui sont arrivées en fait. Les syndicats essaient de chercher justement ce qui se fait dans les boîtes pour essayer de trouver justement quelques failles juridiques pour pouvoir s'y infiltrer. Mais voilà, enfin, les gens planent encore un peu là-dessus. Et puis, si vous travaillez dans l'éducation nationale, par exemple, celui qui a été nommé, c'est Jean-Michel Blanquet, qui est un proche d'Alain Juppé et de l'Institut Montaigne, donc qui dirigeait ces dernières années l'ESSEC. Donc, c'est l'une des plus prestigieuse école de commerce. Bah, ça annonce clairement la volonté d'appliquer à l'éducation nationale les recettes libérales, à savoir autonomie des établissements scolaires pour les programmes, les horaires et l'embauche, leur mise en concurrence à tous les niveaux, l'annualisation du temps de travail des enseignants, des techniques de gestion inspirées du management entrepreneurial. Si vous rajoutez à ça la poursuite de l'état d'urgence, alors ils veulent du coup rentrer encore plus de lois dans le droit commun de l'état d'urgence. Pour dire l'état d'urgence, vous avez, nous on l'a arrêté l'état d'urgence, mais en fait tout sera dans le droit commun, donc en fait, ce sera un truc qu'on aura à vie, enfin voilà.
Mais c'est la même chose que les plans Vigipirate qui ont été intégrés au fur et à mesure, avec les lois sécuritaires, etc.
Et puis les politiques migratoires, hein, un petit clin d'œil à Gégé, le monarque de Lyon, voilà, qui ses premières mesures, donc lui, vont être contre les migrantes et les migrants, voilà, comme c'était l'urgence. Plus de flics à Calais, plus de renvois, accord strict des accords de Dublin. Alors qu'on aimerait plutôt que ça s'arrête, ces accords de merde. Et puis tout en sachant qu'il ne prend pas en compte la situation qu'il y a à la frontière franco-italienne. Hein, ça devient vraiment le merdier aussi. Voilà. Et on espère qu'il y aura de plus en plus de solidarité qui va se mettre en place là-bas. Il y en a déjà beaucoup, mais on espère que ce sera encore le cas.
Je ne sais pas si tu as parlé du dérapage de Macron.
Ah putain, Macron,
parce que là je pense que c'est assez lié sur comment risque de s'annoncer le barrage antifasciste qu'est Macron.
On parlait un peu des migrantes et des migrants, mais quand on dit que dans une certaine chanson que la vulgarité elle est bourgeoise, et ben là on le voit bien, parce que sur une petite blague qui pensait anodine, le père Macron, parce que une petite blague raciste comme ça qu'on peut sortir devant les caméras. Il parlait des quoi ça, c'est les bateaux, les petits bateaux dont se servent les Comoriens, notamment pour pêcher. Je connais bien le coin là-bas. Énormément de petits bateaux comme ça, notamment en fin de journée, qui naviguent un petit peu pour aller pêcher et qui servent, évidemment aussi pour essayer de rejoindre Mayotte, qui reste la seule île française de l'archipel. Donc la petite bague raciste de Monsieur Macron, sur les quoi ça. Donc ça fait un peu le tollé là-bas aux Comores. Il demande d'excuses qui ont été faites. Je suis pas sûr que ça a juste ralenti un petit peu en disant c'était une mauvaise plaisanterie. Mais il n'y a pas d'excuses officielles encore. C'est très choquant pour les nombreuses.
C'est une de plus à rajouter à son palmarès.
Pour les centaines et les centaines et les milliers de migrants et migrantes qui meurent sur des embarcations pouvoir traverser, donc pas forcément notamment là-bas, mais pas que. C'est vraiment insultant pour toutes ces personnes là
Après moi je peux pas m'empêcher de penser aux gens qui pensaient qu'on allait faire barrage aux idées du Front National avec Macron.
Ça va être formidable.
Et ça annonce un beau quinquennat.
Je ne sais pas si on peut faire une deuxième petite pause du coup.
On peut, évidemment. J'ai préparé ce qu'il fallait pour ça. On va écouter encore notre vieux. Il y a mon âge.
Oui,
Daniel.
Plutôt vieux,
soyons sérieux. On va écouter Serge Géroyau, qui va nous interpréter Triste Cité.
Cet amoncellement de métal et de pierre, cet entassement de misère et d'ennui, cette longue plainte et ces regards perdus, triste cité, ces visages blêmes de jeunes mendiants, ces vieux et ces vieilles couchés dans les rues. Cette solitude au milieu des vivants, triste cité. Cet acharnement à diviser les hommes, cet écrasement des lents et des rêveurs, et ces faux espoirs de la fraternité, triste cité. Ces catégories et ces périphéries, ces banlieues de jungle et ces réserves grises, cette course folle au ruban des vainqueurs, triste cité. Et les yeux sans vie de la terre chaude, où sonnent les ventres plus forts qu'un tam-tam, et le chant funèbre des rallye-moteurs, triste cité. Et notre bonheur collé de sourire, et l'amour au corps soulevé de grands rires, et notre avenir vendu aux gérants. cité.
Voilà, Serge Giroyo, merci. Vous êtes toujours à l'écoute de Idées Noires. Vous êtes toujours avec Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des militants et des militantes de la coordination des groupes anarchistes. On va tourner une page maintenant pour en reprendre une autre.
Ok, voilà. Moi je vais aller vous parler de... Alors c'est... Moi, j'ai tiré quelques trucs. Donc, c'est basé d'une interview de Lorenzo Comba-Hervin. Alors, Lorenzo Comba-Hervin, je vous en ai peut-être déjà parlé la dernière fois. Enfin, je vous en ai déjà parlé à une ou deux radios, je ne sais plus laquelle. Et donc, Lorenzo Comba-Hervin, en fait, lui, sa vie, ça a été... Il a été membre du Black Panther Party. Il a été membre, mais ça, je vais l'expliquer un petit peu après, hein, du mouvement des droits civiques. Et lui, sur la fin, il est devenu anarchiste et il explique un peu... sur lui, quels sont un peu les soucis du mouvement anarchiste actuel et aussi comment aussi on a refait, réécrit un peu l'histoire. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. C'est un peu de l'impro, mais on va essayer. Donc voilà, donc la question qui est
posée... On te notera après.
Donc on lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il a radicalisé et mené vers l'anarchisme. Donc il nous raconte que lui, c'était principalement le boycott des bus à Montgomery. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'était Rosa Parks justement, principalement. Et que pour lui, l'un des gros soucis, on va dire, dans l'histoire officielle et dans l'histoire, on va dire, d'une certaine gauche, on va dire, plutôt autoritaire, ça va être l'idée que la lutte des droits civiques, c'était pas l'œuvre des personnes concernées eux-mêmes, mais que c'était plutôt l'œuvre de Martin Luther King avec une approche très pacifiste, très, on va dire, pour être clair, collaboration de classe, en fait. C'est-à-dire qu'il suffirait de protester un peu fort, de faire des manifestations, et le blanc écouterait enfin nos revendications, qu'il n'aurait pas vu, qu'il n'aurait pas fait exprès, etc., avec Kennedy. Voilà, donc pour lui, c'est pas du tout ça, et que le mouvement des droits civiques, bien au contraire d'être le love de quelqu'un de King, de... Je vais arriver. De King Soul, c'était une organisation de base, et principalement, il y avait une organisation qui était la National Association for Advancement of Colored People, NAACP. Et donc, c'était un mouvement de base donc, qui fonctionnait de manière autogestionnaire et qui fonctionnait sur les principes d'action directe. Et donc, ce qu'il explique un peu, c'est que les sightings étudiants en fait, qui avaient été faits, par exemple, le fait d'entrer dans des bars en disant en fait, nous on veut être servi, ça c'est des choses qui ont été faites presque sans préparation. Enfin, c'est ce qu'il explique. Il dit en gros, on s'est mis à trois, on s'est dit oh putain, c'est une super idée, on va faire ça. Et c'est des choses qui ont vachement fait bouger les choses et sur des bases assez, assez autogestionnaires. Voilà. Et pour lui, en tout cas, les ailes anti-autoritaires, elles ont été complètement occultées du mouvement des droits civiques par l'aile réformiste à l'époque. L'insulte préférée des réformistes de l'époque, c'était de dire que c'était des anarchistes, les gens en face qui étaient radicaux. Voilà. Donc c'était plutôt une lutte spontanée. Et ensuite, cette organisation, il y a eu une autre organisation un peu plus grosse qui s'est fondée, qui est un peu plus connue, donc qui a été fondée par le rassemblement de 100 étudiants et étudiantes blanches de gauche et de 300 étudiants et étudiantes noires de gauche aussi, et ça a donné le Student Non-Violent Coordination Committee. Donc voilà, donc c'était une structure non hiérarchique appliquant l'action directe, alors de la revendiquer l'anarchisme, on y est presque, et dans lequel il y a eu beaucoup de personnes anarchistes qui étaient présentes et qui a fait pas mal bouger sur tout un tas de questions, comme par exemple sur la liberté d'accès, sur pas mal de libertés comme ça, etc. Et donc elle était plutôt opposé à l'organisation de Martin Luther King, voilà. Donc lui, les critiques qu'il voit en tout cas du mouvement anarchiste et de la manière dans laquelle ça a été fait, c'est qu'il y a eu peu de liens qui ont été faits avec les personnes de couleur, et que le mouvement social, en tout cas, alors là, il parle plutôt des États-Unis, mais je pense que ça s'applique malheureusement aussi en France, a été... majoritairement plutôt blanc et qui n'a pas su challenger la suprématie blanche, et qui n'a pas su aussi voir que aux États-Unis principalement il y a une collaboration de classe en fait qui est faite par les membres blancs, par exemple quand c'est sur des questions raciales en fait. Bizarrement, l'analyse de classe on l'oublie quand c'est sur les questions racistes. Et donc pour lui, en tout cas, il faut que le mouvement antiraciste arrête d'être guidé par des personnes blanches et qu'il faudrait qu'au contraire, donc là c'est ce qu'il explique un peu plus dans son livre, hein, c'est de perdre l'autonomie. Il faudrait que les personnes blanches perdent l'autonomie sur la question raciale. Alors ça ferait grincer pas mal de dents ici, hein, mais l'idée en tout cas ce serait d'avoir un mouvement en fait antiraciste de personnes de couleur et que les personnes blanches qui profitent de cette suprématie les suivent, voilà. Et il y avait une petite phrase aussi que j'avais notée qui était « On ne combat pas le racisme par le racisme, on combat par la solidarité » qui était d'un des membres du Black Panther Party que j'ai oublié. Donc pour lui, en tout cas, l'anarchisme, il doit sortir de son ghetto culturel et il doit se construire un mouvement efficace et sortir d'un dogme puriste. Et pour lui, c'est pas une tendance contre-culturelle, l'anarchisme est bel et bien... Alors il dit pas le mot, mais pour nous, ce sera plutôt l'anarchisme social. Et... c'est vrai que quand tu présentes l'anarchisme généralement à des personnes qui ne le connaissent pas, les gens ne sont pas opposés sur l'idée, voilà. Et il a fini un peu d'illusionner des mouvements anarchistes, il était membre de l'IWW, il a subi énormément de racisme qu'il raconte dans son livre. Et pour lui en tout cas, il faut que le mouvement anarchiste soit une vraie alternative au mouvement réformiste pour les personnes de couleur. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand tu veux t'organiser que tu es une personne de couleur, les seuls qui font des choses pour les communautés noires par exemple ou les communautés latino, bah là-bas c'est les organisations social-démocrates, bon parfois à tendance trotskiste, mais principalement social-démocrates, voilà. Et l'idée pour lui aussi, c'est qu'il faut qu'on arrête de ne travailler qu'avec des noirs, qu'avec des anarchistes, et qu'il faut qu'on commence à travailler avec des non-anarchistes, voilà, et qu'il y a un purisme, et que c'est principalement ce purisme un privilège de blancs de classe moyenne, voilà. C'est comme ça qu'il l'analyse. Donc le bouquin, qui tire ses analyses, c'est l'anarchisme noir et l'idée de l'autonomie noire, voilà.
D'accord.
Donc j'essaierai de vous en faire un jour plus de morceaux, mais c'est un bouquin qui a beaucoup marqué le mouvement anarchiste américain, Black Rose par exemple, ou le mouvement 5 étoiles, pas 5 étoiles parce que ça, c'est un mouvement fasciste italien, mais le mouvement du 1er mai aux États-Unis en tout cas a été pas mal marqué là-dessus, voilà. Et ça influe pas beaucoup en tout cas les analyses de l'anarchisme américain.
Ok, voilà. Bah merci bien. On donnera ta note tout à l'heure. Non, pour une improvisation, c'est.
C'est très clair. En fait, c'est une impro un peu travaillée quand même.
Ouais, c'est une impro un peu travaillée. Voilà. Après, je pensais à un truc aussi que j'ai oublié. Il a fait partie de la Ligue des travailleurs révolutionnaires noirs aussi, qui a été une organisation assez connue à Détroit dans lequel c'était. En fait, les syndicats à l'époque collaboraient avec les patrons parce que c'était syndicat de blancs. Donc, lui, ils se sont dit, en fait, on va fonder une ligue là-dessus. Voilà.
Ok, du coup on va enchaîner avec une deuxième petite page de
sociale. Je vais y aller avec qui sera un petit peu plus courte. Donc une deuxième page de lutte sociale avec, je vous emmène du côté d'Annecy, Annecy-Genevois exactement, avec l'hôpital psychiatrique, avec au 1er juin la poursuite d'une grève qui a commencé au mois de mai. C'est le service psy qui est en grève dans ce CHU. Un manque de personnel récurrent. Les salariés en place devront même allonger leurs heures. Alors évidemment, là, ils sont pas d'accord du tout. Médecins, infirmiers, infirmières, aides-soignants et soignantes, brancardiers, voilà, tous et toutes sur le pont de la grève illimitée. Ce qui représentait quand même une centaine de personnes sur 330.
C'est un bon ratio.
Oui, c'est un bon ratio, tout du service psy, quoi, évidemment. Donc un réaménagement horaire qui fâche, hein, d'une durée qui passera de 7h30 à 12h de présence, je suppose. C'était un petit peu, enfin, c'était pas très bien expliqué, mais enfin, je pense que c'est ça, de 7h30 à 12h. Œuvre donc de la direction sans concertation, c'est ce qui a mis la colère. Eh bien, les salaires aussi sont dans le coup, puisqu'ils sont inférieurs à la moyenne régionale. Alors côté effectif, selon l'intersyndicale, il manque 10 psychiatres et 15 infirmières diplômées. Et il rajoute évidemment, c'est en info, que le personnel est plutôt enclin à aller bosser de l'autre côté de la frontière, évidemment en Suisse, où les rémunérations sont certainement plus
et l'organisation du travail aussi, je suppose. Voilà. Donc cette grève est tout à l'instar des personnels, on se rappelle de la semaine dernière, hein, du Vinatier, de Saint-Jean-de-Dieu et de Saint-Égrève, qui étaient présents et présentes devant l'ARS à Lyon. Ça a été évoqué, donc enfin, ce qui, là a été évoqué, et encore une fois, les coupes budgétaires. On a là donc le fil rouge du problème, c'est-à-dire le fric, le fric, le fric.
Et surtout le fric.
Et surtout le fric, à mon avis aussi, hein, là-dedans. Passons du côté de la Vendée maintenant à Luçon. C'était le 26 mai avec très tôt quelques dizaines d'employés qui ont occupé un rond-point juste à proximité de leur lieu de travail, l'hyper-U du coin. Protestation contre les conditions de travail, les salaires en forme de U. J'ai trouvé ça, je pense que...
En forme de tréteau aussi, sinon, non ?
Ouais, si tu veux, oui. Donc, il y a aussi ce qui est dénoncé, le mépris de la direction, les pressions pour bosser le dimanche également. C'est pas terminé, monsieur Macron, hein, vous allez en prendre plein le menton. À Angers, maintenant, dans le Maine-et-Loire... On fait ce qu'on peut. À Angers, donc dans le Maine-et-Loire, après le U, donc c'est le feu vert maintenant du coin, le 19 mai, 12 salariés. Vous savez ce que c'est que le feu vert, hein, ce sont ces petits ateliers de réparation et d'entretien.
Ouais, oui, c'est,
de...
pas, c'est, pas le rond, c'est pas pareil que le rond-point du coup.
Non.
Non, ok.
J'ai pas tout suivi, j'ai pas tout compris, mais enfin bon. Le 12 salariés donc de Feu Vert ont grévé. Ici, nous avons en un le harcèlement moral, en deux le planning de travail qui est surchargé, en trois les pressions, en quatre les insultes du manager et en cinq la mutation d'un gentil chef d'atelier qui a mis le feu vert au rouge. Donc la lutte a vaincu les méchants en fait, puisque c'était une lutte gagnante. Hein. Réintégration et le paiement du monsieur en question. Du chef et le paiement d'heures supplémentaires. Voilà. Quant à la suite, je ne sais pas trop, ça n'a pas été précisé. Quant au Dirlo du centre, ben c'est à son tour d'être sur la sellette. Et on participait, outre les salariés, bien à la CGT en soutien, évidemment, et l'inspection du travail, quand même, voilà, donc ils ont fait fort, là, hein, voilà. À Toulouse, c'est le CHU, un autre, donc CHU, le CHU Purpan, ou Purpan, je sais pas comment on prononce, pour les enfants, c'est un CHU spécialisé pour les enfants, qui est en plein boom, un personnel en diminution et ballotté d'un service à un autre, on appelle ça la polyvalence aussi, je crois aussi, c'est
la
dans
flexibilité.
Les... Ou flexibilité, même aussi, oui, très bien.
Il faut être très flexible.
Donc, il y en a marre, finish pour eux, c'est la grève le 11 mai, l'huissier était là, donc le mouvement n'a pas faibli, pour autant, revendication, bah, les conditions de travail, l'effectif, et puis les RTT aussi en cause, et ils demandent l'abandon du conditionnement des RTT par la direction. Il y en a marre de subir, ont-ils et elles rajouté. Ensuite, Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est en Seine-Maritime avec un centre d'appel Actical, 750 salariés dans la continuité du mouvement d'après celui du 1er mai. La direction n'avait pas donné suite à ça. Donc en France, le salaire, c'est, enfin chez Actical, hein, c'est le SMIC pour les 4500 personnes de l'Hexagone. À Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est la grève en cette mi-mai avec des revendications, bon, bah, les salaires bien sûr, les CDD qu'on doit transformer immédiatement en CDI, dénoncer aussi le turnover évidemment, les conditions de travail, surveillance outrancière également de la direction et des chefs haillons. Le groupe, bah, c'est 75 000 salariés quand même sur la planète qui génèrent un chiffre d'affaires à 1,5 milliard d'euros en 2015.
De l'argent, il y en a.
Dans les
poches de ton syndicat.
Eh bien, et pour terminer, donc à Saran, dans le Loiret, avec le 18 et 20 mai, avec un mouvement de grève à la GMF, les assurances donc de la GMF, une soixantaine de grévistes à cette date. Alors, GMF, pour tout expliquer, c'est associé à la MAF, à MMA, et depuis est né le groupement de cette association, est né le groupement, donc un consortium, hein, Covea. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Covea, c'est ces gens-là qui, sur le chantier à Paris, où il y a eu un blessé grave suite à une chute d'un d'un échafaudage là. Et il y avait une grève qui avait duré un petit moment, et aussi des travailleurs sans papier qui demandaient évidemment la régularisation de leur dossier et qui étaient arrivés au but en fait. Donc voilà, c'est ce COVEA qui s'était un petit peu planqué quand même pendant cette histoire.
Je pense qu'ils n'ont pas trop dû assumer.
Voilà, ils étaient revenus un petit peu à la charge parce que ça faisait mal, c'était moche de ne pas donner de suite à ça. Donc, de fait, c'est malin, il y a de nouveaux statuts, hein, ils ont inventé de nouveaux statuts, de fait, c'est COVEA maintenant, pour les employés. Des nouveaux statuts très bien bidouillés, on s'en doute. Donc là aussi, les travailleuses sont pas d'accord, voilà. Pour cette soirée de lutte.
Et bien, soirée de lutte terminée. On va enchaîner avec un dernier sujet, je pense, parce qu'il est assez long, je pense, pour durer la fin de l'émission. On verra, en tout cas. La semaine dernière, on avait fait un petit tour en Turquie pour vous parler de l'assassinat, notamment de femmes et de jeunes femmes militantes. On avait un peu décrit ce qui s'était passé pour 6 d'entre elles, avec toujours le même modus operandi de la police. On avait aussi parlé de la grève de la faim des 2 enseignants, qui risquaient jusqu'à 20 ans de prison pour cela, parce qu'ils demandent juste de reprendre leur poste après leur limogeage. Et j'avais dit, je vous avais dit qu'on ferait un point assez complet sur ce que c'était l'appellation prison de type F en Turquie. Alors, donc le petit texte que je vais vous lire, il est issu toujours du site Kédistan, et surtout le texte fut publié dans les années 2000, pendant la vague de grève de la faim qui sont déroulées dans les prisons, afin de contester contre les conditions carcérales. Près de 20 ans plus tard, en 17 ans quoi, la description est toujours d'actualité. Les conditions ont très peu changé, voire se sont perfectionnées, entre guillemets perfectionnées. Hein. Il existe actuellement 13 prisons de type F en Turquie. Donc voilà. Donc ce type de prison, prison de type F, elle est basée sur le concept carcéral d'isolement du prisonnier politique. C'est-à-dire que la détention de ce dernier est repensée de manière individuelle. Ce projet d'inspiration occidentale et issu du modèle de type cellulaire américain fut pour la première fois évoqué en 1982 et est donc l'aboutissement d'une réflexion parfaitement calculée des autorités turques. Les premiers programmes de recherche sur le sujet furent lancés par l'État américain à la suite d'études sur le comportement de prisonniers revenant de la guerre de Corée. En effet, ces soldats qui, durant leur détention, n'avaient pas été maltraités dans le sens traditionnel, c'est-à-dire en termes de torture physique, ni n'avaient été privés de nourriture ou de sommeil, en étaient malgré tout arrivés à collaborer entièrement durant les interrogatoires. Pour en arriver là, il avait simplement suffi de les enfermer dans des cellules semi-éclairées, abandonnées à eux-mêmes pendant des jours, des semaines, des mois, jusqu'à ce que les prisonniers eux-mêmes demandent à avoir des contacts avec ceux qui devaient les interroger, et ils signaient alors tout ce qui leur était demandé. À la fin des années 60, c'est en Allemagne fédérale que les recherches sur l'isolement reprennent, plus spécialement à la clinique universitaire de Hambourg, où l'on expérimente la, entre guillemets, chambre silencieuse. Les résultats d'une telle expérience montrent que le cobaye le plus déterminé n'a pas pu résister plus de 2 jours et 1 nuit. C'est donc en connaissance de cause et conscience que les autorités turques adoptèrent leur propre système d'isolement carcéral. Elles justifient cette mesure au moyen d'une série d'arguments d'ordre politique, juridique, sanitaire ou sécuritaire, qui ne sont en réalité que des prétextes pour justifier et imposer, autant vers l'opinion publique intérieure que vers les pays occidentaux, Europe notamment, leur refonte carcérale. On a même jusqu'à présenter le « entre guillemets mérite » de la cellule individuelle. Ces arguments furent savamment présentés et orchestrés par des campagnes médiatiques, insistant spécialement sur la nécessité d'une telle réforme afin de répondre aux multiples besoins apparus au fil du temps et dus essentiellement à la surpopulation carcérale. Mais la réalité est tout autre et les prisonniers politiques, comme les forces d'opposition démocratique de Turquie, ne s'y sont pas trompés. Les prisons de type F sont dans les faits des centres de réhabilitation, toujours entre guillemets, et de destruction psychique extrêmement subtile et pervers. Tout est fait pour que le prisonnier n'ait pas à sortir. Des toilettes, un lit, une table et une chaise constituent la seule présence matérielle. Pas de livres, pas de musique, rien. L'ensemble est insonorisé et le monde du prisonnier se réduit à une distance de 3 pas, environné d'un silence oppressant. À cela s'ajoute le port d'un uniforme, des fouilles à corps humiliantes, une censure accrue, la suppression ou la limitation des visites des parents et amis, l'impossibilité de parler à d'autres détenus. Il existe un terme pour qualifier une telle cellule, celui du tombeau. Soumettre un être humain à une détention de cet ordre, c'est le soumettre à une forme perverse de torture, aussi appelée torture blanche ou mort blanche. Donc là, maintenant, la suite de l'article fait un petit peu un historique des prisons en Turquie. Donc, il existe schématiquement trois types de prisons en Turquie, les fermées, les semi-ouvertes et les ouvertes. Mais il faut aussi distinguer les prisons fermées ordinaires et les prisons de haute sécurité. Et tenir compte du fait que si de nombreuses prisons ont des ailes séparées pour les femmes, voire pour les enfants, il existe aussi des prisons qui ne sont réservées qu'aux femmes ou aux enfants. Enfin, il faut savoir que l'on trouve derrière les barreaux de Turquie, comme dans de nombreux pays, des prisonniers condamnés et d'autres enfermés de manière préventive avant leur procès. Après le coup d'État du 12 septembre 1980 et l'annonce d'une loi martiale dans les 67 provinces alors existantes, les opposants étaient jugés dans des tribunaux militaires et en certains lieux envoyés dans des prisons militaires. La prison militaire Mamak à Ankara, par exemple, la prison de Metris à Istanbul et la prison de Diyarbakir, souvent appelée Jol. En raison du grand nombre de prisonniers, de nouvelles prisons ont alors été construites. En novembre 88, Amnesty International déclarait que le nombre de prisons avait atteint le chiffre de 644 et que leur capacité avait été portée de 55 000 à plus de 80 000 prisonniers. Trois ans plus tard, en avril 91, la loi 37-13 sur la lutte contre le terrorisme a été adopté. Son article 16 donc prévoyait que tous les détenus accusés en vertu de cette loi, donc on imagine en Turquie hein, le nombre de personnes que ça peut concerner, devaient être détenus dans des prisons de haute sécurité. Il y aurait à ce jour une quinzaine de prisons de ce genre, dont 13 dites de type F et 2 dites de type D. La première prison de haute sécurité a été créée en remodelant une prison existante qui avait été construite en 87 et remplaçant les dortoirs par des cellules. La prison a été rouverte en février 91. Elle ne portait pas le titre de type F mais de prison spéciale et a été immédiatement perçue par les prisonniers comme l'équivalent d'un cercueil. En novembre 91, 206 prisonniers politiques y étaient transférés. Le ministre de la Justice, Seyfi Oktay, et le ministre responsable des droits de l'homme, Mehmet Karaman, y ont alors fait une visite accompagnée de représentants de l'Association des droits de l'homme et de la Fondation des droits de l'homme de Turquie. Des récits de torture et de mauvais traitements ont alors abouti à la fermeture de la prison, mais elle a réouvert ses portes en octobre 1995. Un an plus tard, les autorités tentaient d'y transférer tous les prisonniers jugés à Istanbul sous l'ATL, donc était anti-terror law, la loi contre le terrorisme. Un échec suite au mouvement de résistance des prisonniers, dont 12 sont alors morts d'une grève de la faim. Reste que le Comité européen pour la prévention de la torture, invité à visiter la prison, ne prenait pas franchement le parti des prisonniers. Dans les années 2000, la controverse sur les prisons de type F reprend. Le 26 octobre 2000, plus précisément, plus de quelques 800 prisonniers se lancent dans des grèves de la faim. Des millions de personnalités cherchent à infléchir la politique voulue par le ministre de la Justice, sans succès. Le 19 décembre 2000, les forces de sécurité turques prennent d'assaut 20 prisons dans une opération baptisée, attention accrochez-vous, Retour à la vie, qui conduira au décès de 30 prisonniers et de 2 soldats. Et les transferts dans les prisons de type F vont aussi démarrer. Ainsi, le 21 décembre 2000, 524 prisonniers sont officiellement transférés dans des prisons de type F à Edirne, Kocaeli et Sincan. Sans tenir compte des protestations, le 3 janvier 2001, 1118 détenus issus de 41 prisons sont en grève de la faim. Nombreux sont ceux qui vont en mourir. Fin 2001, les présidents des barreaux d'Istanbul, Izmir et Ankara proposent la solution de, entre guillemets, 3 portes, 3 serrures qui permet aux prisonniers de passer du temps ensemble, 3 par chambre. Les détenus annoncent alors qu'ils cesseront leur jeûne si la proposition est acceptée. Mais le ministre de la Justice de l'époque déclare la proposition inacceptable. Il fait sa propre proposition. 10 prisonniers peuvent être ensemble pendant 5 heures par semaine. En mai 2002, le président d'une organisation pour les droits de l'homme appelle le ministre de la Justice à entamer un dialogue et demande aux prisonniers de cesser leur grève pour qu'il y ait plus de morts. Message reçu de presque tous les prisonniers le 28 mai, exception faite de ceux qui suivent le DAKPC, Parti Front Révolutionnaire de Libération du Peuple, organisation d'extrême gauche turque. À l'époque, un avocat donc, se joint à l'action en 2006. Il attire l'attention du public lorsque sa santé se détériore. Fin 2006, le président de la Grande Assemblée Nationale de Turquie rencontre les proches de ce monsieur et des représentants d'organisations non gouvernementales. Il déclare que la nation ne peut pas rester insensible à son sujet, pour lequel un avocat est prêt à risquer sa vie et affirme que le ministère de la Justice et le gouvernement doivent agir. Quelques jours plus tard, après avoir lu le décret 45-1 du ministère de la Justice daté du 22 janvier 2007, Beach assure, donc ce monsieur, et 2 prisonniers déclarent mettre un terme à la grève de la faim. Ce décret, qui comporte plusieurs dispositions, permet que 10 prisonniers dans les prisons de type F puissent passer 10 heures par semaine ensemble plutôt que 5. Le progrès est maigre, hein, malgré le nombre de morts et les grèves de la faim, mais voilà, ça a progressé petit à petit. Mais voilà, à l'intérieur et à l'extérieur de la prison, donc 122 personnes sont mortes dans le cadre d'actions de protestation contre l'isolement dans les prisons de type F. Beaucoup souffraient de maladies graves, telles que le syndrome de Wernicke-Korsakoff. En décembre 2007 et janvier 2008, l'Association des juristes contemporains a mené des recherches sur la mise en œuvre du décret 45.1. 25 avocats sont allés visiter 6 prisons et ont parlé avec 120 prisonniers. Ils déclarent alors que la possibilité de 10 heures de conversation par semaine dans des groupes de 10 prisonniers n'a pas été observée dans les prisons de type F de plusieurs villes, Tekirdağ, Kocaeli et Bolu. Dans la prison de type F de Tekirdağ, ce droit avait été révoqué 3 mois avant. Dans les autres, le temps était limité à 2h30, où ce droit, donc, ou pareil, dans d'autres prisons de type F, pardon. Donc l'Association des droits de l'homme et la Fondation des droits de l'homme de Turquie ont également critiqué l'isolement dans les prisons de type F. On trouvera des détails dans le rapport de cette organisation sur les prisons dans la région de Marmara, ou notamment en 2007 aussi. Il est également possible d'en savoir plus, via le site du Forum de la Turquie démocratique, DTF, où il existe un système de sauvegarde pour les rapports 2008. Amnesty International a publié plusieurs rapports sur les préoccupations concernant l'isolement et les atrocités dans les prisons de type F. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi le 19 juillet 2007, la prison de Kirkele, pardon, je ne sais pas si je le dis bien, la 13e prison de type F qui a été ouverte. La prison de Lille, Imrali, où est détenu donc Abdullah Öcalan, chef du PKK, n'est pas exactement une prison de type F, mais c'est aussi une prison de haute sécurité. Donc voilà pour ce petit point sur les prisons. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, depuis toutes les arrestations, depuis le fameux coup d'État du mois de juillet, les prisons sont pleines à ras-bord et on peut supposer, on essaiera de trouver des informations plus récentes, mais donc les personnes qui ont publié le texte disaient que c'était la situation est encore telle qu'elle encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il doit y avoir encore beaucoup de ce type de prison utilisée avec cette technique d'isolement total, pour faire avouer des crimes qui n'ont pas été commis.
Voilà, et je ne sais pas si ça a été dit, mais il y a un truc aussi, c'est que dans les prisons de haute sécurité, en fait, l'isolement total, c'est considéré comme de la torture, même par les médecins.
La torture blanche.
Pas de gauche, quoi.
Oui,
voilà, donc c'est considéré vraiment comme une torture. Donc,
voilà.
C'est ce qui est fait, par exemple, pour les personnes trans qui se font agresser, par exemple, dans beaucoup de prisons.
Et du coup, la semaine prochaine, je finirai donc par encore un petit mot sur la Turquie. La semaine prochaine, voilà, toujours qu'on est sur les conditions carcérales qui existent en Turquie, sur un cas un peu plus récent. De Devrim Ayik, donc qui est malade et est en prison. Je vous ferai ça la semaine prochaine. Ça fera un point bien complet sur la situation. On va, du coup, là c'est 20h59, on va faire on va donc rappeler les activités de ce week-end, notamment les nôtres sur Lyon, donc avec un week-end antifasciste organisé donc par la CLAF qui était au départ une campagne libertaire antifasciste avec Alternative Libertaire, la CNT, donc nous la CGA. Donc pour ce week-end au programme, le vendredi 9 juin, donc après-demain, 20h30, concert de Carousel Fusion. C'est du Gnawa et chansons populaires, c'est à prix libre et ça se passe à la Plume Noire, au 8 rue Diderot, sur les pentes de la Croix-Rousse. Le samedi après-midi, le lendemain, à 16h, une présentation débat avec questions de classe, des membres du collectif Questions de classe, avec présentation du numéro spécial du magazine Notre École, Éducation contre Extrême Droite, Extrême Droite contre Éducation. Ça se passera au local de la CNT, au 44 rue Burdeau, toujours sur les pentes de la Croix-Rousse, et c'est toujours à prix libre. Il y aura notamment Alain Chevarin sur les deux personnes qui interviendront. Et le dimanche après-midi à 16h, on retourne à la Plume Noire au 8 rue Diderot avec la projection du documentaire d'Angélique Kourounis, Aube dorée, une affaire personnelle, toujours à prix libre. Voilà, comme vous êtes à l'heure, on est très content de pouvoir le passer parce que, voilà, officiellement encore, il est accessible sur le net, on a eu l'autorisation de le diffuser par l'équipe de production. On est plutôt content.
On est plutôt content de l'avoir vu.
On vous invite à 16h dimanche, sur les trois activités, un vendredi, samedi, dimanche. Vous retrouvez tout ça sur notre page réseau social, sur nos sites local aussi. Voilà, n'hésitez pas aussi à diffuser tout ça, il faudrait qu'il y ait du monde sur les trois jours.
Tout à fait.
Voilà.
Eh bien, on vous dit à mercredi prochain, on va laisser le micro à la lumière du frigo.
Tout à fait.
Ça rime. C'est formidable.
C'est parfait.
Et puis, on vous dit donc à mercredi, c'est ça que j'ai dit.
Ou même à ce week-end.
Voilà, même lieu, même horaire, même motif, même punition. Allez, bonne semaine.
Bonne semaine à vous.
Ciao.
Salut.